Bonjour, nous commencions à réfléchir à l'engagement et la fidélité dans un couple. Il m'est venu à l'esprit, pour poursuivre notre réflexion, la fin du Sermon sur la montagne. Vous savez, c'est cette parabole que Jésus nous donne comme conclusion. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé, un homme sage, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé, fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Il me semble qu'il y a là un premier secret de la possibilité d'un engagement irrévocable et de la fidélité dans un couple. C'est de trouver le véritable fondement. Alors, peut-être me direz-vous, si c'est une devinette, dites-la nous vite, et puis comme ça, on pourra résoudre tous nos problèmes. Mais c'est pas si simple que ça, parce que le vrai fondement dont parle Jésus, le roc sur lequel il faut bâtir, le roc, c'est lui-même. Et c'est donc le mystère même de la délivrance de l'homme, de sa vie à l'image de Dieu, de son plein épanouissement, de son plein enfantement à sa vraie personnalité, à sa vie en plénitude, dont il est question. Et ce n'est pas pour rien que le sacrement de mariage, qui reprend ce projet fondamental dans l'espèce humaine, depuis que les êtres humains existent sur notre planète, de composer ainsi cette cellule fondamentale de la société, dont toutes les dimensions ont déjà été évoquées ici au cours de nos entretiens, cette ambition devient le sacrement, comme saint Paul le dit, de l'amour du Christ et de son Église. Et quand saint Paul en parle, on peut indifféremment faire jouer la comparaison dans les deux sens, c'est-à-dire expliquer le sacrement du mariage comme une image, comme une comparaison qui permet de comprendre l'union du Christ et de son Église, et donc comparer Jésus, ainsi qu'il le fait lui-même, à l'époux, et l'Église à l'épouse. Et inversement, on peut aussi comprendre l'union de l'homme et de la femme devenue sacrement à la lumière de ce que le Christ fait pour son Église et de ce que l'Église fait pour son Seigneur le Christ. Et ainsi, il y a comme un éclairage réciproque et mutuel qui nous fait comprendre ce que c'est que ce roc. Ainsi, le secret, la fondation qui fait que l'édifice tient contre les épreuves, contre les vents, la pluie, les torrents, toutes les épreuves qui viennent battre cette maison, le roc solide, c'est cet amour à l'image de celui du Christ pour son Église, comparable à celui du Christ pour son Église et celui de l'Église pour son Seigneur, le Christ, ou bien encore le même, mais se déployant dans la relation conjugale, dans cette rencontre des personnes au service d'autres personnes, d'abord les enfants qui leur sont donnés, et tous ceux qui entrent ainsi en relation dans les liens que la vie établit avec celui et celle qui sont devenus époux. Ainsi, vous le voyez, il faudrait maintenant, pour bien comprendre ce que signifie cette fondation, ne pas se figurer qu'il suffit d'avoir scellé un accord fragile par nature, puisque les êtres humains sont fragiles, et parfois inconstants, et changeants, d'avoir scellé cet accord fragile d'un sceau sacré, même du sceau du sacrement, pour le rendre inévocable, car on n'aurait pas fondé sur le roc. Si on fondait sur le roc, ça veut dire fondé sur le Christ, ça va vouloir dire que toute la construction va devoir participer à cette fondation. Et qu'est-ce que c'est que toute la construction? Eh bien, c'est la vie commune, le temps, l'histoire, ce qui va se passer au cours des péripéties d'une vie, et qui va permettre constamment d'édifier cette maison en la fondant ainsi sur le roc inébranlable. C'est donc une totale illusion de penser que des gens s'aiment, se choisissent, décident de se marier, implorent Dieu et font que leur amour devient sacrement de l'amour du Christ et de son Église, et puis qu'après c'est fini, ils n'ont plus qu'à en profiter, c'est fait, c'est acquis. On a l'impression que bon, bah, les fondations sont solides, c'est terminé, il n'y a plus à s'en occuper, puisque c'est là, puisque la fondation garantisse, c'est une garantie plus que décennale, c'est une garantie pour l'éternité. Mais c'est une grossière erreur. Car ce qui est garanti, c'est que vous allez pouvoir poursuivre l'édification en étant sur un fondement solide, et cette édification va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Mais toute l'édification va consister à pouvoir faire face aux difficultés rencontrées, à la pluie, au torrent, au vent, à tous ces obstacles qui viennent battre cette maison et qui lui permettent précisément de résister. Un couple, c'est d'abord l'histoire d'un homme et d'une femme dont l'union trouve dans sa fondation, dans l'acte de fondation, la ressource nécessaire pour se bâtir jour après jour et transformer les difficultés en chance, transformer les obstacles en source de grâce, transformer même les péchés en cause de pardon et d'approfondissement. C'est un couple qui ne cessera pas de se construire. Le jour où un couple cesse ainsi de travailler au bien de l'autre et au bien du couple lui-même ainsi que de la famille, il est déjà en train de mourir. Vous me direz, mais c'est fatigant, on ne peut pas se reposer. Mais si, précisément. Le repos mutuel vient du don mutuel. L'entraide et l'encouragement jaillit de la sécurité que donne la volonté fondée sur le Christ d'ainsi se dévouer, d'ainsi se vouer au bonheur de l'autre. Et ceci n'est pas une mince affaire. Et parmi les obstacles qu'il faut vaincre, eh bien, il y a tous les registres possibles et imaginables. La beauté peut être fugace, le désir peut disparaître, la patience a des limites, les traits de caractère peuvent s'accentuer, les défauts peuvent se révéler, les malheurs peuvent dessécher le cœur, l'agacement peut venir, la vie commune peut paraître insupportable. Je ne vais pas énumérer tous ces obstacles, ceux qui les vivent les connaissent mieux que moi peut-être, et en tout cas ce sont les leurs, et souvent c'est leur secret. Et mon propos ici n'est pas de vous dire, quand vous arrivez à un point critique, de vous donner seulement des bonnes paroles, en vous invitant à la patience. Mais je suis ici le témoin, à la place d'autres qui peut-être ne vous le diront pas, que ces épreuves peuvent être surmontées et que le couple lui-même peut en sortir grandi. Parfois, il peut être renforcé, y compris dans une épreuve durable, supportée par amour du Christ. Il y a des histoires merveilleuses de gens qui ont accepté de donner leur vie pour l'autre, pour l'époux ou l'épouse, au prix de longues obscurités, où ils savaient quand même que leur fidélité, parfois tenace, obscure, douloureuse, éprouvée par des contradictions, parfois par du mépris, par des difficultés inouïes aux yeux de ceux qui les subissent, et dont le conjoint aussi porte sa part, car l'un ne souffre pas sans que l'autre ne souffre de quelque façon, au lieu de s'entre-déchirer, supportant ainsi longuement cette épreuve. Il y a des époux qui connaissent une joie que d'autres qui se sont quittés ne connaîtront jamais. C'est, après de longues épreuves, de se redécouvrir, riche de cette fidélité commune et de ce chemin parcouru, retrouvant parfois dans leurs enfants une bénédiction dont ils n'avaient pas pressenti la richesse et la beauté au moment où les épreuves commençaient. Il y a des saintetés crucifiés extraordinaires qui sont en même temps des réussites humaines dans un échec apparent. Le tout, c'est de savoir où on met l'objectif et quelles ressources on mobilise. Car il est clair que si la loi qui fonde l'unité d'un couple, c'est le désir le sensible, le désir corporel, le désir sexuel, vous savez bien qu'il passe ou qu'il change. Si c'est l'attrait de l'affectivité, il est fugace aussi. Si c'est les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, l'art de vivre, tout cela peut aussi fonder des relais d'une entente d'un couple, mais aussi peuvent se présenter comme des obstacles. Parfois, où les esprits bougent, il y a des périodes de la vie où des gens, brusquement, soit qu'ils mûrissent, soit qu'au contraire, ils régressent psychologiquement, changent de cap, virent exactement comme un navire démate et bascule. Ou bien des gens qui, pris par l'existence, par d'autres préoccupations, parfois par leur métier, parfois par d'autres rencontres, n'ont plus leur tête, et puis se laissent prendre à d'autres horizons. Et alors ? Eh bien, ça prouve seulement que le projet d'un don mutuel irrévocable, qui n'est pas une prison, mais qui est au contraire une entreprise commune pour laquelle l'un et l'autre vont travailler toute leur vie, n'avait pas été sérieusement envisagé. Se marier, c'est pas simplement une chaîne, mais le bonheur, se marier, c'est entreprendre une aventure du bonheur mutuel qui suppose l'engagement d'une vie entière et un don sans cesse renouvelé de soi-même. Et c'est la condition du bonheur véritable, tel que ici-bas il peut être reçu, car il n'y a pas de bonheur, en quelque domaine que ce soit, qui ne soit le fruit d'un effort, d'un don de soi, d'un dépassement de soi-même. Aucun domaine au monde ne peut permettre de donner ce que l'homme appelle le bonheur véritable, si ce n'est à cette condition-là. Tous le savent, aussi bien les artistes, les savants, les hommes de métier, les femmes de conviction et de réalisme. Là où nous réussissons et où nous en avons la joie, c'est là où nous avons accepté de nous investir et de nous donner. Le tout est de savoir qu'est-ce que nous donnons de nous-mêmes et à qui et pourquoi. À la semaine prochaine.